Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Ma fille sous influence. Saison 2, de l'autre côté du miroir.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur à Paris, sur 1700 Français qui ont rejoint la Syrie depuis 2014, 391 sont des femmes. Mi-2013, souvenez-vous, l'État islamique en Irak et au Levant est créé dans une Syrie déjà dévastée par la guerre civile. La plus jeune de ces Françaises à partir à 14 ans, la plus âgée une soixantaine d'années. De nombreuses filles ont rejoint Daesh avec leurs enfants, certaines ont aussi eu des enfants sur place et on estime actuellement que 550 mineurs ont vécu ou vivent encore en Syrie ou en Irak. Avant de partir, les plus déterminées ont suivi un entraînement physique, une sorte de programme de remise en forme. Les plus jeunes ont fait une shopping list avec des tas de maquillage et malgré l'interdiction officielle, une fois arrivées, la plupart prennent des selfies et mettent tout ça sur les réseaux sociaux. Olivia est une des plus sérieuses, si on peut dire. Elle vit en Belgique, dans une petite ville tout près de la frontière française. Comme Emma, la jeune fille de la première saison de Ma fille sous influence, c'est une convertie. Sa famille est de culture catholique. Son père élève des canaris pour participer à des concours de beauté et sa mère travaille pour la Redoute. Elle a 29 ans maintenant, elle a repris ses études, elle veut devenir avocate, ce qui risque de ne pas être facile pour une jeune fille fichée pour terrorisme. C'est donc la deuxième saison de Ma fille sous influence, épisode de 3 par Edith Bouvier et Céline Martelet, 5 jeunes filles qui ont rejoint Daesh, réalisé par Emmanuel Geoffroy.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans, je suis belge et je suis convertie à l'islam depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc il y a eu toute cette envie de m'approprier la religion à laquelle j'étais convertie depuis déjà plusieurs années, mais que je pratiquais vraiment en surface, quoi. Et j'y connaissais rien. Et donc dans un premier temps, ça a été « tiens, je vais aller m'acheter des bouquins à la librairie islamique en bas de chez moi ». Et j'achète des bouquins, et dans cette librairie, comme dans 9 librairies islamiques sur 10, ben, la majorité des bouquins sont des bouquins de doctrine wahhabite, et on les lit. Et puis, parallèlement, il y a le fait de perdre mon boulot. Donc financièrement, c'est de plus en plus la galère, mère célibataire. Je passe à ce moment-là le cap du foulard, et même du gilbeb, en fait. Et je me renferme encore plus sur moi-même. Donc je suis dans cette doctrine qui déjà m'enferme et fait une nette différence entre musulmans et les autres, les mécréants, les infidèles, tout ça, avec des termes toujours très durs et très binaires, quoi. Donc les médias, faut pas les écouter. Tout ce qu'ils disent, c'est des mensonges. Donc pas de télévision. Donc en fait, je suis même pas au courant de ce qui se passe plus loin que mon quartier, quoi. Et on en vient à un moment donné, toujours avec cette mouvance wahhabite, où il y a ce principe de hijra, de devoir absolument quitter cette terre de mécréants pour aller vivre en terre d'islam. Eux prônent ça comme une obligation absolue. Et si vous ne faites pas cette fameuse hijra, vous êtes un mauvais musulman. Donc je suis là avec une amie à ce moment-là qui, on est dans ce même processus toutes les deux. Et il y a la Syrie à ce moment-là qui vient sur le tapis. On est en fin 2014 à ce moment-là. J'ai pas cette notion de pays en guerre. Et du coup avec ma copine on se dit on va contacter des gens sur place. Donc on contacte et c'est hyper simple de contacter. Très rapidement ça prend même pas une heure quoi. Pour recevoir des invitations, des messages. Et on discute toutes les deux avec des gens qui sont sur place, qui nous disent que c'est super, ils vivent leur religion tranquillement, paisiblement comme ils veulent. En plus, ils sont utiles à la communauté, ils aident la veuve et l'orphelin. Ils vivent comme à l'époque prophétique. Nous, c'est ce qu'on veut à ce moment-là. Et en plus, quand on émet des doutes, ils nous disent « Oui, mais de toute façon, vous pouvez venir, et si ça ne vous plaît pas, vous aurez toujours la possibilité de rentrer, c'est pas compliqué. Tu pourras même aller en vacances en Turquie, tu reverras ta famille là-bas, ils pourront même venir en vacances ici. » En gros, je me dis « Bah, j'ai rien à perdre, je vais voir. » Parce que de toute façon, ici en Belgique, j'ai plus rien, j'ai pas de boulot, et je vais galérer à en trouver parce que j'ai passé le cap du foulard. Tout le monde me déteste parce que tout le monde déteste les musulmans. Et puis je suis quelqu'un de frustré, je suis devenue méchante, je déteste tout le monde, les gens dans la rue, je les méprise. Cette idéologie, à ce moment-là, m'a rendue comme ça. Donc je me casse et je suis contente de me casser à ce moment-là, de tout ça, de laisser la misère derrière, de laisser les factures. Et puis moi, je partais pour un idéal. Donc si cet idéal était idéal pour moi, il était forcément pour mon enfant. Ma fille est musulmane, qu'est-ce que ça va être dans quelques années quand ce sera à elle de faire face à tout ça ? Dans ma tête, à ce moment-là, je pars aussi pour la protéger de ça. Si ça me plaît pas, je reviens. Donc, on est fin décembre 2014, là. Et puis, on entame 2015, et quelques jours avant mon départ, on me dit, oui, si tu pars pas maintenant, tu pourras plus. Après, ça va être plus compliqué. Un énorme coup de pression qui se fait, et je pars. Les attentats de Paris, j'en entends parler quand je suis déjà en Turquie. Et en fait, je m'en fous. J'ai l'impression d'être déconnectée de ce truc. C'est pas... Je sais pas, en fait, ça me touche pas, comme si à ce moment-là, j'étais plus un être humain avec de l'empathie pour un autre être humain, quel qu'il soit. Donc je pars le 9 janvier 2015. J'ai 25 ans. Je pars avec mon enfant, elle a 5 ans. Je monte dans un avion pour Istanbul. C'était la première fois que je prenais l'avion. Il fallait que je me rende dans un certain hôtel. On m'avait donné le nom de l'hôtel et ils étaient rodés apparemment. Puis le lendemain, on m'a dit il y a un taxi qui va venir te chercher en bas de l'hôtel dans 20 minutes, sois là. Donc, j'étais en bas avec les valises, ma fille, et je suis montée dans le taxi. Le taxi savait apparemment où m'emmener et de là, il nous a ramené à une autre voiture avec des passeurs. On a attendu d'autres gens. On a fait une grande partie en voiture et la fin, les derniers 3-4 kilomètres à pied. On court à un moment, enfin les passeurs nous demandent de courir et puis à un moment donné, il nous dit arrêtez, vous pouvez marcher, vous êtes tranquille. Marhaba fi daoula, quoi. Bienvenue dans l'État islamique. Et on est passé en Syrie. Et on se retrouve devant deux gros vannes, un van pour les femmes, un van pour les hommes. Et là, j'ai un foulard, entre guillemets, classique sur ma tête pour passer inaperçu. Et là, déjà, le premier signe qu'on me fait, c'est « couvre ta tête », quoi. Donc je mets un niqab et puis on m'emmène dans une première maison d'accueil à Jirabulus à ce moment-là, donc vraiment à la frontière. Et je rentre dans une maison isolée, il n'y en a pas d'autres autour. Il y a une cinquantaine de femmes sur des tapis à même le sol, avec des enfants, petits, grands, des nourrissons. Ça caille. Donc moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir de la neige à cet endroit-là, au mois de janvier. Bref. Et une des premières paroles que j'ai à un moment, d'une fille qui me demande en anglais « t'as pas un truc à manger ?» Je dis « non ». Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, quoi. Et ça, c'est la première image que j'ai de ce pseudo-État islamique. Je dis, bon, je ne m'attendais pas à être accueillie avec un bouquet de fleurs et des confettis, mais quand même, pas à me retrouver face à des femmes qui ont faim dans un état soi-disant identique à la période prophétique, quoi. Ça, c'est le premier point, mais je reste très peu de temps. Je reste une demi-heure, là, parce qu'on vient me chercher. Donc, la personne à qui je me marie après, sur place... Lui, c'est un contact sur place. Et puis, je me dis, en plus, il est belge, donc c'est bien, on aura des choses à se raconter. Donc, je le découvre à ce moment-là, au moment où il vient me chercher, quoi. Mon futur gros lard. Mon futur Shrek. Il m'y manque une dent, par contre. Ça, je le remarque direct. C'est violent, quoi. Très violent. Et puis... il a ramené des gâteaux pour la petite et tout. Et je trouve ça cool. Ça me rassure à ce moment-là. Je me dis, bon, c'est cool, il a l'air normal. Donc, on a pris la route pour Raqqa, en voiture. Puis on arrive à Raqqa, il fait noir. La nuit est tombée. Et là, il me dit, je vais te laisser à mon appart, et puis demain, on ira au tribunal pour se marier. Et puis, donc, il nous laisse dans cet appart où il n'y a pas d'électricité. Il fait froid, il fait humide dans cet appart, ça c'est un truc qui me choque. Il a préparé une chambre pour la petite et je trouve ça... ça me rassure encore une fois à ce moment-là. Et puis il nous ramène des durums et des frites, quoi. Sans maillot. Le lendemain, en fait, la première chose qui me choque, c'est que il fait clair là, à ce moment-là. Et je vois la crasse dans l'appartement. Je me dis, comment c'est possible pour un homme musulman de vivre dans une crasse pareille? Et puis donc oui, on va au fameux tribunal. Là, il me sort une espèce de petite sacoche avec plein de bijoux qui vont faire office de dot. Et puis, y a deux entrées, une entrée homme, une entrée femme. Et il fait sombre parce que c'est au sous-sol, mais ça a l'air quand même de tourner comme une administration, quoi. Limite, il manque juste le petit ticket. Et il y a de tout, en fait. Il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des boiteux. Il n'y a pas de femmes, quoi. Là, on est vraiment dans le monde des hommes. Ils viennent chercher les femmes au compte-gouttes dans la salle d'attente quand ils ont besoin, quoi. Et donc, moi, je patiente dans la salle d'attente des femmes. Et puis, finalement, on vient me chercher. Et je me retrouve devant un juge d'origine tunisienne qui parle français, plus ou moins, et qui va acter ce qui, pour eux, est un mariage, quoi. Et je ressors mariée. Et voilà. Il m'a jamais interdit de sortir toute seule. Il m'a juste donné deux conditions. Tu rentres avant la tombée de la nuit et tu sors armée. Et il me dit, ouais, faudra que t'apprennes à tirer. Je dis, ok.
Il a donné une arme ou...
La sienne, qui était là, la calache qui était là, adossée contre le mur, quoi.
J'étais pas pour, mais c'était ça ou ne pas sortir. Et ne pas sortir voulait dire que mon enfant ne sortait pas non plus. Comme au début j'avais réussi à la mettre à l'école, ça me permettait d'aller la conduire à l'école en matinée. L'après-midi, on pouvait aller au parc. Donc je sortais armée. Et là-bas, tout le monde était armé, en tout cas tous les djihadistes, entre guillemets. C'est pesant de se balader avec une arme, au sens propre comme au figuré. Je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais même pas m'en servir.
Donc la petite commence à aller à l'école en matinée. Donc elle va le matin à l'école, et du coup c'est là que je commence à sortir et à discuter un peu avec les dames syriennes, avec les quelques mots d'arabe que je connais et les quelques mots d'anglais qu'elles connaissent, et on se débrouille comme ça. Je commence à prendre mes marques dans cette ville que je connais pas, avec des trottoirs trop hauts, c'est la galère avec un gilbeb, ça pue l'essence, il y a pas de bombardement à ce moment-là. La seule chose qui peut paraître anormale, c'est que les hommes sont tous armés, même certaines femmes, mais peu. Et il y a quelques bâtiments qui sont effondrés, mais c'est pas énorme, la vie suit son cours, les commerces sont ouverts... Donc je vois des choses. Un grand-père qui est là dans une ruelle sur le perron de sa maison en train de fumer une clope et qui se fait agresser par ce qui prétend être une police islamique. Mais cet homme a 80 ans, quoi, au moins. Il a probablement toujours fait ça, aller fumer sa cigarette sur le pas de sa porte. Puis j'entends des histoires de femmes qui ont vécu des choses horribles. Moi, à côté de ça, j'étais avec un enfant de cœur, presque, quoi. Il est juste mentalement perturbé, quoi. C'est un homme violent, crade, stupide, qui a, à mon avis, été éduqué dans une misogynie totale. Et mon caractère fait que je me tais pas. Donc s'il y a un coup qui tombe, je me relève, même si j'ai mal. Tu me fais pas peur, quoi. C'est pas parce que tu fais 120 kilos et je m'en fous. Je me rappelle d'une scène où le gars rentre et j'ai cuisiné du riz et le gars voulait des patates, sauf qu'il n'y avait pas de patates. Donc, et puis quand bien même, je ne peux pas deviner. Et le gars ne supporte pas ça. Et donc c'est des coups de ceinture, c'est... Enfin voilà. Et puis un jour, il rentre, il décide à ce moment-là d'ouvrir un restaurant de pâtes avec un Syrien. Il s'entendait très bien avec les civils syriens du coin. Il était déjà là depuis un bon bout de temps. En fait, moi, à ce moment-là, je me pose même pas la question, tiens, il va pas au combat et tout, parce que c'était des questions que je m'étais pas posées avant de partir. Donc, ça me fait pas tilt. Mais on a parfois quelques discussions, et puis il m'explique qu'il se passe certaines choses, et à un moment, je lui dis, mais c'est pas un État islamique, du coup, tout ça. Et lui me dit une phrase à ce moment-là qui me choque quand même assez. Il me dit « Ouais, mais vaut mieux la moitié d'un État islamique que pas d'État islamique du tout. » Et ça me reste quand même en tête, quoi. Et puis, bon, ça se passe comme ça pendant à peu près 3 semaines, jusqu'au jour où une nouvelle scène de violence, et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Il me tient à la gorge, et je me vois mourir, en fait, à ce moment-là, et ma fille tape dans la porte en lui criant « Lâche ma maman ». Et dans ma tête, là, je me dis « Si je meurs maintenant, qui va s'occuper de ma fille ?» Du coup, quand je me relève de ça... je lui dis que je veux divorcer de lui. Il me dit « Ouais, c'est pas toi qui décide. » Je dis « Écoute, je suis pas une érudite en religion, mais je connais quand même un minimum mes droits. » Donc ça tourne comme ça pendant quelques jours, et puis finalement, il décide d'accepter le divorce. J'ai toujours l'espoir à ce moment-là d'être dans un État islamique où donc on va me donner mes droits, et où cet homme, ce qu'il a fait avec moi, c'est pas normal, donc je veux m'en plaindre. Donc je vais au tribunal, et puis... Et on me met devant ce fameux juge francophone. Donc je commence à expliquer un peu. Et le gars m'écoute absolument pas. Et il y a des hommes qui font des allers-retours dans son bureau. Et à chaque fois, il me coupe la parole. Et ça commence à m'agacer grave. Et je m'énerve et je tape sur son bureau. Et je lui dis, mais tu vas m'écouter, je suis ta sœur, quoi. Il s'y attendait pas. Du coup, il ferme la porte de son bureau à ce moment-là. Et il me dit, ok, c'est bon, je vais ouvrir un dossier. Et donc je parle, et puis à ce moment-là, il me demande « Oui, mais ton mari, il fait partie de quel groupe de combattants ?» Je dis « Bah, il va pas combattre, il fait des pâtes. » Il a ouvert un restaurant de pâtes 3 rues plus loin. « Ah, il va pas au combat. » Et donc là, mon histoire commence à l'intéresser, bizarrement. Mais ça fait combien de temps ? Je dis « Bah écoutez, depuis que je suis là, moi, en tout cas, il est jamais parti, quoi. Après, je sais pas ce qu'il faisait avant, et... » M'en fous, il fait sa vie. Et j'apprends du coup après qu'ils ont été l'interroger. Et donc là, ils lui mettent la pression. Si tu pars pas au combat, tu seras considéré comme déserteur, quoi. Donc c'est la prison, c'est la mort qui t'attend, en gros. Donc, on est en début février 2015. Et là, donc, je me dis non, je veux rentrer. Ça fait déjà un moment que ça tourne dans ma tête. Et là, je le formule. Le problème, c'est comment est-ce qu'on rentre, quoi. Parce que moi, on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi comme je voulais. Mais 3 semaines avant, mon super mari m'a dit qu'il venait de fermer, entre guillemets, le territoire et que plus personne pouvait en sortir sans autorisation. Et puis, là, je reçois un message sur Facebook de super mari, enfin ex, qui me dit « Oui, s'il te plaît, retire ta plainte et reviens. » Je dis « Non, je veux pas de toi et je retirerai pas ma plainte, j'ai rien dit de faux. »« Ouais, non, dis-leur que j'allais quand même au combat, que j'attendais juste de rejoindre un autre groupe, sinon je vais avoir des problèmes, machin. » Et là, je me dis « Bon, bah, c'est quitte ou double. » Et je lui dis « Écoute, je veux bien retirer ma plainte. » Mais en contrepartie, tu me fais sortir de Syrie avec ma fille. Et il me dit OK. Et donc, il va dans un premier temps parler à son wali, donc son supérieur, on va dire. Il va dire oui, voilà, ma femme voudrait juste rejoindre la Turquie 2 semaines. Il invente un truc. Et le wali lui dit non, moi, je peux pas lui faire de papier. Va voir le gouverneur de Raqqa. Donc il va le voir et lui, lui dit non plus, non, ta femme, elle n'a pas à sortir, peu importe les raisons, même si c'est pour revenir. Et ce jour-là, après ça, il rentre énervé en me disant, mais on est vraiment en prison, en fait, ici. Et je pense qu'à ce moment-là, lui-même, il a un certain déclic, peut-être. Et du coup, il va utiliser ses ressources, les civils syriens qu'il connaît très bien et avec qui il s'entend assez bien. Et il va finir par dégoter un passeur syrien. Et en fait, la veille du départ... Il me dit « Moi aussi, je sors. Même si je dois prendre 30 ans en Belgique, je me casse d'ici. » Donc, finalement, le lendemain matin, le taxi passeur est là et on passe les checkpoints et on arrive à Tal Abyad, pas très loin de la frontière turque. Et le soir, une fois que la nuit tombe, on se retrouve face à un espèce de champ immense avec 2-3 kilomètres plus loin des hautes grilles et l'autre côté des grilles, c'est la Turquie, quoi. Et il y a des centaines de personnes, quoi. Et on m'a dit le jour-là de mettre une abaya noire typiquement syrienne. Lui, il a rasé sa barbe, parce qu'il ne faut surtout pas que les autres sachent qu'en fait, on fait partie de Daesh à ce moment-là. Parce que là, c'est que des civils syriens. Et moi, je fuis un mensonge, ils fuient leur vie, quoi. Et quand je vois, il y a vraiment des personnes très âgées, des mamans avec des bébés à peine nés. Ils sont tous là avec leur sac et je me dis, mais merde, ce sac, c'est toute leur vie, quoi. À ce moment-là, je me sens coupable, quoi. Je me sens coupable parce que je me dis tout ce qu'on m'a raconté, que soi-disant j'allais être utile, entre autres, aux Syriens. En fait, c'était juste pour leur rajouter de l'horreur à l'horreur, quoi. Et j'ai fait partie de ça, même si c'était pas ce que je voulais. En y allant et en étant sur place, en n'ayant pas osé l'ouvrir plus quand j'ai vu des trucs moches, parce que j'avais peur pour moi-même aussi. Je me suis conduit comme une lâche, quoi. On a dû traverser un fossé très profond, il a fallu courir très vite, revenir en arrière, recourir, parce qu'il y avait l'armée turque de l'autre côté, donc ça a été plusieurs essais. Et puis les gens qui tombaient à côté, on n'avait même pas le temps de les ramasser, en fait, ou de les aider. C'était chacun pour soi, quoi. Et puis finalement, on arrive à passer, on est même dans les premiers à réussir à traverser la grille. Et une fois qu'on est sur le sol turc, ils ne peuvent plus rien faire, quoi. Mais il y a encore tous ces gens derrière. Et ça, c'était juste un soir. Juste un passage. On arrive à la première gare routière et on prend un bus vers la ville de Mersine. On prend une chambre d'hôtel et à l'accueil, ben, ils demandent mon passeport. Donc moi, je donne mon passeport. Et puis on a dormi un peu et vers midi... on a été manger un McDo. Je déteste le McDo, mais bon, j'étais à 2 contre 1. Et la petite était contente. On n'était pas très loin de la mer, donc j'ai dit à la petite, cet après-midi, on ira voir la mer. Et puis, je suis plus en danger, je suis en Turquie. Autant en profiter, en fait, un petit peu de voilà. Et donc, et on revient du centre commercial. Et cette espèce de choc où j'ai l'impression de sortir d'un trou noir qui a duré des mois et des mois, alors qu'en fait, ça n'a duré que 2 mois et 3 semaines. De revoir des gens vivre, entre guillemets, normalement, une vie normale, quoi. Et quand on revient à l'hôtel, en milieu d'après-midi, y a une dizaine de fédéraux turcs, en fait, qui sont en bas de l'hôtel. Et on est emmené au commissariat, et là, j'apprends que y avait 2 mandats d'arrêt internationaux, et que en donnant mon passeport, je suis cramée. Donc, centre de détention administratif en Turquie, avec la petite. Lui, il sera mis en prison. Et ça dure un mois. Donc, il y avait un des flics turcs qui parlait français. Au bout d'un mois, 2 jours avant, en fait, il est venu me dire, il m'a dit, écoute, t'es prête à payer ton billet toi-même? Ouais. Ok, dans ce cas-là, tu pars après-demain, quoi. Donc... Moi, j'avais bien compris que je passerais un petit temps en prison en Belgique. Les quelques contacts que j'ai pu avoir par téléphone avec mes parents et avec le père de la petite, tout est arrangé pour que ma fille aille chez mes parents. Donc je lui dis que on va être séparés un petit temps, mais que ça va pas durer, qu'elle va aller chez papy et mamie, elle est heureuse d'aller chez papy et mamie. Elle pleure quand je lui dis qu'on va être séparés, mais je lui dis que ça va pas durer, parce que sincèrement, à ce moment-là, je crois que ça va pas durer. J'ai tué personne, je me suis fait du mal à moi-même, je fais du mal à ma famille, je fais du mal à ma fille, mais c'est tout. Donc je me dis, ça va aller vite. Et quand je descends de l'avion à l'aéroport de Charleroi, donc on me fait passer dans une pièce avec la petite à part, il y a 6 fédéraux belges, Et il y a une dizaine d'agents en uniforme dans un bureau. Et je dis, voilà, est-ce que je peux ramener ma fille à mes parents? Moi, je me dis, ça va se passer comme des gens civilisés, quoi. En Belgique, je vais y rester en tout 19 mois. En attendant, je reste un an sans voir ma fille. Même pas de coup de fil. Et ma fille n'est pas confiée à mes parents comme ça devait être le cas, mais à son père qu'elle connaît à peine. Quand je sors de prison, je retrouve pas ma fille. Et non seulement je la retrouve pas, mais en plus j'ai même pas la possibilité de l'appeler, même pas la possibilité de lui écrire, et mes parents non plus. Et ça prend plus d'un an avant de passer au juge des affaires familiales et avant d'obtenir le droit de l'avoir une heure par mois dans un centre sous surveillance avec deux dames qui surveillent l'heure. Donc je m'en veux à moi-même, parce que j'ai ma responsabilité là-dedans, je ne dédouane pas de... C'est moi qui me suis mise les premières œillères. Mais je suis restée musulmane, et je ne l'ai jamais cachée, même en prison. Hein, y a des gardiens qui m'ont dit « fais semblant, va à la messe, va au culte catho, ça fera bien dans ton rapport ». Mais non, parce que faire semblant, c'est comme si j'admettais que Daesh, c'est ma religion. Alors que non. J'ai quitté Daesh, j'ai pas quitté ma religion. Ma religion, je l'ai réapprise depuis, je la réapprends encore. Mais je la quitte pas. Est-ce que je vais réussir à me l'arracher moi-même, cette étiquette de terroriste? Je vais peut-être réussir à me l'arracher moi-même, après personne ne viendra me l'enlever, non. C'est certain. Et quand bien même je devrais toujours être avec, ben... Tant pis. De toute façon, je peux pas l'effacer, ça fait partie de ma vie et... Et je dois faire avec.
Yeah. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man.
Feel like I'm destined.
C'était le troisième épisode de cette nouvelle saison de Ma fille sous influence avec Olivia. Une émission, un reportage et un podcast d'Edith Bouvier et Céline Marteler réalisé par Emmanuel Geoffroy. Tous les épisodes, je vous le précise, sont disponibles en intégralité, en podcast, sur toutes les bonnes applis de podcast. Si vous cliquez à Ma fille sous influence, une occasion d'écouter ou de réécouter la première saison si elle vous a échappé. Elle est signée Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand. Merci pour cette émission à Martine, à Zoé, à Manu, à Laura Passoni, à Anne-Laure Chanel pour le générique. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Alexandre Dan qui est derrière la vitre.